9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Radio Primitive.
C'est bon, vous l'aurez voulu. Après, ne venez pas pleurer.
Bonjour et bienvenue dans Radiocratie. Nous sommes le lundi 25 juin 2018, il est 18h et vous écoutez l'émission numéro 124 de Radiocratie. C'est l'avant-dernière d'ailleurs. Radiocratie, c'est chaque lundi de 18h à 19h sur Radio Primitive, fréquence 92.4 à Reims, pardon, et via le site radioprimitive.fr partout ailleurs. Radiocratie, c'est une semaine sur deux un talk show avec des chroniqueurs, des invités, des débats et une semaine sur deux de la musique. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook très facilement trouvable qui s'appelle tout simplement Radiocratie. Pour tout ça, pour retrouver les podcasts, des émissions postées chaque lundi, chaque mardi à 20h et tout plein d'autres infos sur l'émission. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, on commencera l'émission en direct vers 17h30 avec plein de monde, beaucoup de monde en fait, ça va être une horreur en régie et des jeux. Et donc ne ratez pas ça, vous allez vous marrer parce que ça va être une émission super fun, enfin, techniquement. Et aujourd'hui, nous allons parler de liberté. Paul Éluard, si tu nous écoutes, c'est parti. Le 25 juin, hein, parce que on va faire le truc traditionnel que fait Titi. Hein. Oui, il est un petit peu en retard. Le 25 juin, c'est en 1950 le début de la guerre de Corée. En 1978, c'est la création du drapeau arc-en-ciel pour Gay and Lesbian Freedom Day Parade. Enfin, la Gay Pride, quoi. À San Francisco. Pour les naissances du 25 juin, il y a celle de l'homme de théâtre Georges Courteline en 1858, de l'homme politique et résistant Pierre Brossolette en 1903, ainsi que l'écrivain George Orwell. Le même jour, le chanteur québécois Robert Charlebois en 1944 et du chanteur Georges Michael en le 25 juin 1963. Pour les décès, il y a eu l'assassinat du président Sadi Carnot le 25 juin 1894, de Georges Courteline en 1929, donc mort pile le jour de son anniversaire. Et le 25 juin 2009, c'est la mort de Michael Jackson. Qu'est-ce qu'il y a, Lou?
Non, joyeux anniversaire, Marcel. Le Père Noël est une ordure au cas où.
Ouais.
Il y aurait des gens qui.
Nous allons commencer notre émission sans Titi. Alors, on va d'abord présenter nos chroniqueurs. Alors, j'ai pas du tout préparé le truc. C'est Titi qui a tout, hein. Donc, nous avons un petit nouveau, Charles.
Bonjour.
Un habitué maintenant qui vient souvent, Alex.
Oui.
Alors la traditionnelle, attention, c'est ça va être salé aujourd'hui, Lou.
Évidemment. Et aujourd'hui, je baigne dans l'eau salée, je flotte.
Et en dernier, nous avons le fameux grand déconneur, Julien.
Bonjour.
Vous voyez comme il est déconneur.
Oui, en effet. Donc, on va continuer d'explorer l'âme humaine, vu que la semaine dernière, on a parlé d'autonomie avec la liberté. Donc, pour commencer les débats, quelle est votre conception de la liberté de l'être humain?
C'est un putain de sujet vaste comme ça. La liberté, est-ce qu'on pourrait pas déjà avoir une définition de la liberté comme elle est décrite dans le dictionnaire?
Je m'y oppose.
Au moins... Ah, d'accord.
Non, pardon. Je m'y colle, excusez-moi. Donc, on va commencer par l'étymologie. Liberté, alors déjà, c'est une opposition à tout ce qui n'est pas libre. Par exemple, ça descend du latin libertas libertaris, qui signifie celui qui n'est pas esclave, celui qui n'est pas prisonnier, ou celui qui n'est pas soumis à une autorité arbitraire. En gros, c'est un statut de privilégié. C'est au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, que le mot a pris tout son sens. Il est défini comme tel, pouvoir qu'à la volonté de se déterminer sans subir de contraintes. En gros, si je le comprends bien, le droit de s'autodéterminer.
D'accord.
Ça m'aurait été utile au bac de philo, ça.
J'avoue. Personnellement, mon avis sur la conception de la liberté de l'être humain, c'est que on est libre en fait là où, enfin plutôt notre liberté s'arrête là où commence celle des autres en fait, en tant qu'individu, je trouve, je pense.
D'accord. Alors je vais contredire ce que tu me dis en assessant le fait que
j'en doutais pas un instant.
Objection.
Tu serais pas d'accord.
Objection.
Je vais contredire ce que tu viens de dire en objectant que, selon moi, la liberté, dans son principe pur, n'existe pas.
Ah, bien sûr qu'elle n'existe pas.
L'être humain est forcément soumis à des contraintes et par conséquent...
ne serait-ce que des contraintes physiques.
Si on prend un principe déterministe, personnellement, je considère que le principe de liberté est illusoire et il est avant tout fait pour contrôler les foules et pour faire croire aux gens qu'ils ont un choix sur ce qui est en train de se passer dans leur vie. Alors que il ne faut pas avoir fait de longues études pour se rendre compte que globalement le milieu socioculturel, le lieu de naissance, la couleur de la peau, les orientations sexuelles d'une personne ou même tout un tas d'autres facteurs font que globalement on est toujours contraint par quelque chose, même si on a la volonté d'être libre. Cette volonté ne peut pas être suivie d'effets et on se retrouve forcément embringué dans une vie qui de toute manière n'est pas soumise à nos propres choix.
Je suis totalement d'accord. J'ai pas de...
Donc on n'a pas de liberté à cause des Illuminati. D'accord.
Oui, alors voilà.
Et les reptiliens.
Donc voilà, c'était une belle émission sur la liberté.
C'est bon, on peut arrêter là. Nous allons donc nous faire assassiner
lundi,
chez nous.
À lundi prochain.
Alors en fait, si vous voulez savoir, voilà, la liberté n'existe pas. Vous pouvez donc vous suicider maintenant.
Alors on va éviter quand même.
Alors ça, justement, est-ce que vous vous sentez totalement libre dans nos sociétés?
Comme l'a dit Charles, c'est vrai que ça dépend beaucoup de là où on vient en fait.
Bah écoute... Je me sens aussi libre que de circuler dans Reims avec mon fauteuil roulant. Voilà.
T'allais dire quelque chose?
Excuse-moi, Alexis.
Non, t'inquiète, je disais justement que j'étais assez d'accord avec toi sur le fait que ça influe beaucoup de là où on vient, là où on est, en fait. Si t'as de l'argent, t'es libre de plus faire de trucs que si t'en as pas, que ce soit l'accès aux études, l'accès à l'information, ce genre de choses-là.
Ouais.
Donc, ça change énormément.
Et même si on prend la liberté d'un point de vue social, et qu'on oublie le côté conceptuel du truc, au final, on se retrouve quand même face à quelque chose qui, de toute manière, est soumis à des contraintes, effectivement, comme tu viens de le dire, l'accès aux études, etc., etc. Au final, l'endroit où tu nais conditionne énormément la façon dont tu vas comprendre et intégrer la liberté en tant qu'individu.
Ça, puis tout simplement l'éducation, tout ce qui va avec, l'endroit où tu vis, ça fait partie des composantes en fait de ta personne qui feront ou non, enfin, tu ne peux pas être libre de par ta nature d'être humain, en fait.
Non. En fait, si t'es cis, hétéro, blanc, valide, avec du pouvoir et de l'argent, t'es plus libre que les autres.
T'as moins de problèmes à accéder à une liberté une liberté, on va dire, toute relative, mais un tout petit peu plus élevée que les autres. C'est-à-dire qu'il y aura moins de problèmes, quoi. Comment on a fait ça, déjà? En gros, un normise. Un normi ne se fera pas agresser dans la rue par des flics parce que c'est un normi, quoi. C'est ça n'arrive jamais, ça.
Pour le détail, un normi, c'est quelqu'un qui est malade de la norme.
En gros, oui.
La formule est super.
Est-ce que tu pourras répéter exactement tous les termes que tu as utilisés sur le blanc cis
Alors attention, blanc cis blanc cis hétéro valide. Avec du pouvoir et de l'argent.
Un catholique.
Par exemple.
Ça va beaucoup plus vite.
C'est gagné, vous repartez donc avec la Toyota.
C'est un descendant de Christine Boutin. Ça va beaucoup plus vite à dire.
Alors, question suivante, sauf si vous avez des trucs encore à dire, non, c'est bon.
Okay. Non, c'est pas ça. Je pense qu'on a déjà bien dit.
Alors, pour vous, la liberté, est-ce que c'est le droit de tout dire? Et sinon, quelles sont les limites à cette liberté d'expression?
Je peux me permettre de commencer. Pour moi, ça commence par la liberté de fermer sa gueule. En fait.
D'accord,
c'est pas faux.
Donc c'est bien de commencer sur un principe comme ça à la radio, alors que
je suis totalement d'accord avec ça. C'est que les gens, en fait, je ne supporte pas, notamment les gens qui sortent la phrase que des proches n'a pas dit d'ailleurs, qui est on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Mm-hmm. C'est ridicule, ça m'énerve. Est-ce qu'on peut pas tout dire? C'est impossible. Sinon, tu vas forcément blesser quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un qui a un affect, en fait. Un affect, donc c'est comment dire, je saurais pas comment sortir une
expérience traumatisante ou quelque chose
en gros chose ça. Quelque chose de, un affect, c'est un sentiment lié à quelque chose.
Ah oui, d'accord, pardon.
Un sentiment lié à quelque chose, et pour moi, non, tu ne peux pas tout dire. Ou alors, si tu dis tout, t'es le plus parfait connard de la création, et moi je préfère les gens donc qui ne disent en général rien, ou alors qui font pas trop de bruit.
C'est un petit peu oppressif ce que tu nous dis là, Lou.
Peut-être. Mais je suis précieux.
Non, Moi, j'avoue que l'avis sur la question, je me le suis posé quand même très très. Enfin, je me suis souvent posé cette question. Et c'est super compliqué parce que on peut pas dire à quelqu'un qui doit fermer sa gueule parce que c'est un con, même si on a souvent envie de le dire. Ouais. Très régulièrement, ça m'est encore arrivé beaucoup ce week-end, alors qu'on était en mode festif à un festival, quoi. Hein. Mais je veux dire, non, c'est juste que c'est toujours compliqué. C'est que moi, je suis pour que les gens ont des avis divergents. Donc celui qui veut me parler d'un avis qui est complètement contraire à ce que moi je pense, on va dire, de la société telle qu'elle devrait être, il a le droit de le faire. Après, je suis en droit d'être en désaccord avec lui. Donc lui, il a le droit de parler. Moi, j'ai le droit de contre-argumenter, admettons. Mais du coup, je pense que si moi, enfin pour moi, la liberté d'expression, on a le droit de dire tout ce qu'on veut avec qui on veut. Par contre, il faut savoir aussi se pondérer, quoi. Pas devenir agressif, violent, débile.
Et, tant que c'est fait dans le respect, au final, de la personne en face.
Ouais, c'est ça, tant que ça se fait dans le respect, et puis dans la bonne humeur aussi. On peut être en désaccord tout en respectant l'autre.
Tu peux avoir un débat avec quelqu'un, partager des informations ou des avis divergents, au contraire. Mmh. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien de rencontrer une personne qui a un avis différent du mien. Parce que ça nourrit le débat, ça nourrit la culture, et il y a des fois où je me suis retrouvée dans la situation où une personne m'a dit un truc, et je me suis dit, ouais, bah, effectivement, j'ai tort. Je suis désolée, j'ai tort.
Ah oui, ouais.
Je me rends compte que ça va pas. Et ça, c'est un truc qu'il faut accepter.
Alors, la liberté d'expression n'a de sens que si on assume les conséquences de ce qu'on dit.
Exactement.
Par exemple, si je me mets à insulter le président Macron, même si j'en ai très envie, j'ai pas le droit à l'antenne. D'accord? Parce que, je vais en payer des conséquences, je vais être poursuivi en diffamation. Mais si j'accepte, j'aurai le droit de le dire. Si j'accepte pas,
tu veux dire, monsieur le président?
Oui, Manu. Tu sais,
Ah oui, Manu. Pardon. Voilà. Je cherchais lequel, je savais pas si on parlait de celui-là ou de...
Voilà, celui qui a la Maison Blanche ou l'autre qui fait les chansons?
Quoi?
Non, Manu,
Non,
Trump,
mais Payet, c'est un humoriste.
Emmanuel. Enfin bon, oui, c'est vrai que c'est un humoriste.
Moi, je pense à Manu Chao aussi.
Bon, par contre, la loi encadre cette liberté d'expression, c'est-à-dire, elle ne la définit pas exactement, mais elle l'encadre par plusieurs choses. La première, c'est on n'a pas le droit de dire certaines choses, comme la diffamation. Les négationnistes, donc ceux qui vont à l'encontre, qui disent que les camps de concentration n'ont pas existé. Et sinon, il y a 24 critères
rien que ça.
Oui, 24 critères sur lesquels on n'a pas le droit d'insulter les gens, qui sont le sexe, le nom de famille, l'origine, la grossesse, donc le fait d'être enceinte, la situation familiale, l'apparence physique, le lieu de résidence, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, l'appartenance à une ethnie, qu'elle soit supposée ou non, l'appartenance à une nation, qu'elle soit supposée ou non, la conviction religieuse, la perte d'autonomie, la vulnérabilité d'une personne résultant d'une situation économique... Oui, ça commence à devenir long. La capacité à s'exprimer dans une langue et la domiciliation bancaire.
Domiciliation bancaire.
Oui.
Tout ça, ça ressemble à la fois à une liste de courses et en fait, et au mode d'emploi pour juste être quelqu'un de poli. Non,
Tu prends tout ça, tu le mets dans les toilettes parce que sur Internet, ça marche pas.
C'est vrai que sur Internet, c'est pas top. Mais techniquement, c'est les critères qui encadrent la loi. Si tu en souffres, tu peux porter plainte. Mais bonjour l'engorgement de la justice.
Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas les dates d'apparition dans la liste parce que bizarrement, j'ai comme l'impression que l'orientation sexuelle et le genre, c'est arrivé il y a pas très très longtemps quand même en France.
Oui, c'est arrivé.
Bizarrement.
Ça fait pas très très longtemps que c'est pas considéré comme une maladie d'être comme ça en fait.
Non, mais c'est pour ça. Du coup, c'est quand même assez...
Je précise, en 2018, tu faisais des interventions scolaires. Il y avait que 18 critères.
Ah bah voilà.
Oui, d'accord,
ça a augmenté. Et on remarque aussi que cette limitation, elle ne protège que les individus et pas les idéologies ou les choses comme ça. Par exemple, on n'a pas le droit de se moquer de quelqu'un qui croit, mais on a le droit de critiquer sa religion ou de la parodier.
D'accord. Et au même titre, si on a par exemple quelqu'un qu'on considère comme étant très moche et qu'on lui dit t'es très moche, on peut être poursuivi pour ça. Mais en revanche, on peut critiquer des traits physiques qui seraient présents chez cette personne.
Alors, tu sais que c'est exactement la même nuance qu'entre un crime, un meurtre de masse et un crime contre l'humanité, ça? Parce que un crime contre l'humanité, c'est de pourchasser et d'exterminer des gens pour leur ethnie, justement.
C'est pas un génocide, ça, normalement?
Un génocide, c'est un crime contre l'humanité.
Mais c'est pas exclusivement relié, en fait.
Effectivement, là, c'est le génocide qui est... Bon, en fait, on n'est pas là pour parler de génocide, a priori, c'est qu'il n'y a plus de liberté à ce moment-là, donc...
Oui, je peux donner un exemple de liberté d'expression qui choque, mais qui est permis. Merci Lou pour m'avoir donné l'info, la statue de Maurizio Cattelan, un artiste sculpteur sculpteur. En fait, c'est simple, vous rentrez dans un musée, dans une pièce noire, avec ce qui semble être un petit enfant agenouillé en train de prier, avec une lumière quasiment déique qui descend dessus. Vous irez voir sur internet, c'est génial.
C'est féerique.
Et quand on fait le tour, ben, avec toute l'empathie qu'on a eue pour ce petit gamin, on se rend compte qu'il a la tronche d'Adolf Hitler.
Ouais.
Et là, tout tombe.
Qui est en train de prier, qui est à genoux en train de prier.
Tu viens de spoiler une pièce de...
Il me semble que c'est le Führer demandant pardon ou je ne sais plus.
Le Führer à genoux, je crois, ou le Führer devant Dieu. Je ne sais plus comment il l'a appelé.
Ah, Titi vient de nous rejoindre.
Mais en tout cas, c'est une œuvre que je trouve particulièrement parlante. Ainsi que celle du pape qui se fait écraser par une météorite, qui est stupide, mais qui est absolument géniale. Génial,
ouais. Surtout que juste dans le concept, c'est énorme. T'imagines juste si ça arrivait, ça remettrait tellement de choses en question.
Ceux qui nous écoutent, tapez juste genre Hitler à genoux, l'Hitler demandant pardon, ou alors c'est quoi l'autre heure déjà, c'est... J'ai une carte.
Le pape avec l'astéroïde.
Le pape frappé par une astéroïde. Franchement, vous découvrirez un artiste qui vaut le coup d'être suivi. Vraiment.
Titi, tu reprends la présentation. On va passer au deuxième...
Oui, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue ici.
Si tu veux, Boris, si c'est prêt, on peut écouter un morceau de musique et puis on se retrouve tout de suite après.
Ben normalement il y a la chanson de Georges Deleuze.
Eh ben c'est parti.
Eh ben on envoie ça.
Georges Rue, Jesse Norman. Bonjour, rebonjour. Oui, je suis arrivé à la bourre. C'est uniquement de ma faute. C'était l'hymne à la liberté de Georges Dru, chanté par Jesse Norman. Donc, on va continuer avec la liberté. Et moi, j'avais une question aussi pour continuer cette émission. La vie personnelle est-elle une contrainte? Par exemple, un rendez-vous avec un pote, est-ce que c'est une contrainte d'arriver à l'heure? Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Je pense que c'est une contrainte qu'on s'impose nous-mêmes, en fait, encore une fois par politesse, pour le confort de l'autre. Je pense qu'il y a quand même un instinct social qui fait que bah, on n'a simplement pas envie, on s'imagine à la place de la personne, une sorte d'empathie, en fait, qui fait qu'on pourrait s'imaginer à la place de la personne qui attend, et bah, nous, ça ne nous plairait pas, quoi. Donc, oui, je pense que c'est un truc qu'on s'impose, On se dit tout seul, en fait. On n'a pas forcément besoin d'avoir une règle.
Ça me fait bizarre d'arriver en retard et de commencer sur cette question.
Arriver à l'heure pile, c'est pas forcément une contrainte. Par contre, si le pote il poireaute 4 heures, c'est pas la même chose que 20 minutes.
Ouais. Voilà.
Oui, c'est le fameux principe de ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Au final, t'aurais pas envie que par exemple un tel vienne te mettre un coup de pied au cul. Pour autant, du coup, tu vas éviter de lui en mettre un parce que bah genre c'est juste voilà.
Oui, donc la politesse.
Il paraît que c'est la politesse.
La politesse est une contrainte au final.
C'est une contrainte, c'est une forme de contrainte.
C'est une absence de liberté, bien sûr. Et ça nous amène au plaisir. Dans notre société, est-ce que c'est une contrainte, donc une obligation d'être heureux? Sinon, c'est mal vu. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que dans notre société occidentale, ouais, parce que c'est typiquement français, je ne sais pas, mais en tout cas occidental, que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas bien, qui va faire un burn-out, qui va être en dépression, qui ne va pas être en forme, tout de suite, c'est mal vu. On se dit, oh, celui-là, oh, celle-là, c'est... Je veux dire, qu'est-ce qui nous fait chier avec ces problèmes? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même une... j'ai l'impression qu'il y a une forme d'obligation d'être heureux, d'être bien.
De paraître heureux,
ouais,
surtout.
Ouais, voilà, et surtout en de fait, paraître.
Effectivement, je suis d'accord avec avec ce que dit Charles, c'est la culture, en fait, du montrer.
Ça rejoint un sujet qui est pas mal en raccord avec ça, c'est que dans notre société, en ce moment, on a pas mal le côté tout le monde est très occupé et tout le monde essaie de montrer le plus possible qu'il est très occupé, qu'il a pas de temps mort en fait dans sa vie, et on a une espèce d'opposition entre l'occupation et le fait d'être pas mal occupé et le fait d'être d'être seul et perdu dans sa vie au final.
Boris,
alors oui, en fait cette contrainte, elle découle, enfin cette contrainte apparente, elle découle de l'obligation à la l'injonction à la réussite, qui est traduite par l'obligation à la performance, notamment dans les sociétés où par exemple dans le sport, avec toutes ces pubs là pour nous faire du footing et qu'on soit bien dans notre corps. En fait, on peut être bien dans son corps sans faire du footing ou chercher la performance. Mm-hmm. Et d'ailleurs sur cette idée, les psychiatres ont découvert ce qu'on appelle le trouble de la performance. Mm. Donc en gros, plus on s'impose d'être performant, moins on y arrive, et encore pire, ça arrive à des suicides, voire des suicides tout bêtement, voire des
oui, c'est déjà pas mal,
voire des
dépressions.
Dépression
et sinon c'est la mort.
Quand ton corps il...
Ah, avoir des enfants.
Non.
Se cloner. Non.
Ouais, non.
La mer noire. La mer noire.
Non, c'était pas la mer noire. Et Stéphanie de Monaco, ça marche pas non plus.
Ah merde.
Alors que Julien testait les lignes.
Non, mais c'est vrai. Pour revenir à ce que tu disais, Boris, concernant par exemple le sport et la performance, c'est vrai que de plus en plus, on est dans une société, en parlant de la liberté, où c'est pareil. Quelqu'un qui fait pas de sport, par exemple, j'ai l'impression que c'est mal vu. Mais des fois, il y a des gens qui.
Mais c'est très feignant.
Ouais, c'est être un feignant, ou c'est tu croises quelqu'un qui court, t'es avec un pote ou je sais pas qui, n'importe, puis qui tu peux faire une remarque, tu sais, ah bah il court pas très vite, tu sais, il est peut-être qu'il court pas depuis longtemps. Oh oui, mais au moins il court, c'est un minimum. Des remarques comme ça, quoi.
Tout le temps, ouais.
Il y a un culte du sport de plus en plus où si on fait pas de sport, c'est mal.
Alors, je voudrais revenir sur un petit attrait un petit peu plus philosophique. Le bonheur, en fait, c'est la réalisation des désirs, des vœux et des aspirations. Alors, c'est vrai qu'on subit un conditionnement au bonheur, par exemple, à la société de consommation ou la conformité à la mode. Par exemple, en ce moment, c'est la mode d'aimer la Coupe du Monde de foot.
Ouais.
On n'est pas tous obligés d'aimer, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, dans notre société, elle présente le bonheur comme quelque chose d'inatteignable. Or, si on se fie, par exemple, à des philosophes, on se rend compte que le bonheur ne peut se trouver que dans la plénitude du moment présent et pas dans la course du futur.
Soyez nihiliste.
Et épicurien. Et est-ce que, donc, justement, la dernière question pour conclure cette partie, est-ce que être libre et heureux, ou moins en apparence, parce qu'on est quand même dans une société de l'apparat, est-ce que c'est une contrainte?
C'est présenté comme une contrainte. Ouais. C'est ça le problème. C'est qu'on ne montre pas aux gens ce qu'ils gagneraient à être heureux, à être bien dans leur peau. On leur explique pas. Il y a aucun moment dans la vie de quelqu'un, dans son éducation, ou peu importe, où il y a vraiment une importance qui est mise sur le fait que tu dois te sentir bien dans ta peau.
Mais est-ce qu'on a une recette miracle?
Est-ce qu'on a une recette miracle? La
dispatch. On n'explique pas, mais.
J'ai toujours envie de dire que pour moi, la recette miracle, c'est la communication, en fait. Le partage, le fait de s'exprimer. Bah, on parlait des débats tout à l'heure avec Julien. Excuse-moi, j'ai cru que j'avais oublié. Avec Julien, et effectivement, rencontrer des gens qui sont pas d'accord avec toi ou qui n'ont pas le même avis, ça ne rentre pas en conflit avec la liberté ou avec le fait d'être heureux. C'est juste que tu rencontres une personne différente. Et au contraire, je trouve que c'est hyper enrichissant, encore plus. Même. C'est hyper important, en fait, de faire comprendre aux gens, de partager les choses pour faire comprendre que, ben voilà, on peut être heureux en étant cultivé, mais que c'est pas, en gros, c'est pas honteux de pas l'être.
Et puis, t'as des gens qui sont très heureux avec zéro culture. Qui connaissent rien sur rien, qui s'en foutent, et puis qui sont heureux comme ça.
Qui sont heureux comme ça, ouais.
Alors, et puis, j'aimerais être comme ça.
Après, comme le disait Boris, il y a le fait que tout le monde voit ça comme un truc inatteignable et autre. Et il y a une phrase qui me revient, là, c'est, on voit souvent le bonheur comme une destination, alors qu'il faudrait le voir comme un chemin. Et c'est vrai que tout le monde cherchant à obtenir, à atteindre, ne serait-ce que là, pour le corps, la santé, à être beau, pour rentrer dans les normes, à plaire, pour se satisfaire de quelque chose, c'est passer à côté de tout ce qu'on a sur ce chemin-là, en fait.
Personnellement, c'est pas tant le concept d'atteindre du bonheur que j'ai un problème, c'est dans la façon de l'atteindre, en fait, qu'on nous enjoint. Au final, on se retrouve avec, je suis désolé, D'accord. J'ai vu Boris qui me faisait signe en régie. C'est plus dans la façon de l'atteindre, en fait. On nous montre des chemins prédéfinis pour atteindre le bonheur, et au final, on oublie le fait que, au final, quand on est dans sa propre vie, avec ses propres contraintes, le bonheur, il est tout relatif et défini selon la personne et ses expériences, au final.
Est-ce qu'elle attend?
L'exemple type de ce chemin tout tracé, il porte un nom. L'American Way of Life.
Exactement.
Eh bien, merci. On passe à la suite, c'est parti. Liberté, 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 liberté. Je savais que Boris t'allais kiffer les berrues. Alors, donc on parle de liberté, l'anarchisme et la négation de toute autorité d'où qu'elle émane. C'est un peu une définition de l'anarchisme. Alors, est-ce que l'anarchisme, pour vous, c'est ça, la vraie liberté?
Moi, j'aimerais savoir où t'as trouvé ta définition de l'anarchisme.
Non, je sais plus quel dico, je sais plus.
Parce que si tu te fies à l'anarchisme politique, l'anarchiste reconnaît l'autorité. Ce qu'il reconnaît pas, c'est la domination dans l'autorité. Par exemple, si tu croises un mec qui a une compétence et que toi, t'as pas, il aura une autorité sur toi le temps qu'il t'apprenne. Mais l'autorité va être changeante. L'anarchisme, c'est une société qui est... extrait de l'exploitation de l'humain par l'humain.
Oui. Après, t'as l'anarchisme politique comme ça, et t'as l'anarchisme individuel où tu te dis de manière très basique, j'emmerde tout le monde et je fais ce que je veux, quoi.
Alors, tu confonds avec l'anomie.
Oui. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est ça pour vous la vraie liberté?
L'anarchisme? Non. C'est pas la vraie liberté. C'est pas. Enfin.
Pas très développé comme point de vue, ça.
Je dirais, non, parce que justement, j'essaye d'amener ce que j'essaye de dire, parce que d'un point de vue personnel, pour moi, c'est la liberté. Le fait de, entre guillemets, se moquer un petit peu de ce que la société nous impose et de vivre selon, en s'acceptant ou selon des principes de vie, voilà, qui, histoire d'essayer justement d'être heureux, tu vois, d'accéder justement à ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc l'anarchisme, pour moi, c'est une forme qui est viable, mais étant donné que je ne crois pas du tout en l'être humain, je suis nihiliste, du coup, je peux pas croire, en fait, que ça puisse marcher. Je ne crois pas du tout en l'anarchisme en tant que société.
Si on mettait en place l'anarchie actuellement, elle marcherait pas. Il faut un gros capital d'éducation pour pouvoir faire comprendre aux gens que c'est pas dans leur intérêt de marcher sur le voisin.
Bien sûr.
Capital qui est réduit de plus en plus par tout. Enfin, je veux dire, y a personne qui conteste ça. Personne.
Oui, dans une société de plus en plus individualiste, etc.
Attention, l'anarchiste, c'est une société ultra-individualiste, non?
Oui, mais...
Mais, confondre avec, justement, l'individualisme. Puisque, oui, il y a une forme d'individualisme, c'est la différence avec le capitalisme, c'est que, oui, tu favorises l'individu, mais, par contre, tu t'occupes de ton prochain.
Voilà.
Exactement.
C'est comme une forme d'autonomie où t'as des micro-sociétés qui sont, je pense à des ZAD, à des zones de, aussi de, où, qui sont complètement autogérées, si tu veux. Et oui, c'est individualiste. Il y a un vrai partage, des ressources, un partage de, celui qui sait, faire pousser des légumes, et ben, il va faire pousser des légumes pour la communauté, etc. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui, tout à fait. Et, bah, de toute façon, c'est un sentiment humain. Je veux dire, quelque part, l'empathie, le fait de pas forcément avoir envie de laisser son prochain dans la merde, en fait. Mais ça arrive plus souvent dans les gens... enfin, personnellement, j'ai plus eu des meilleurs contacts avec des gens qui ont connu la merde, qui ont connu le fait de pas être bien, soit de pas avoir de thunes, soit la galère, quoi. Vraiment la galère. Ces gens-là, souvent, ils sont très...
Compréhensif,
accessible. Ça n'a pas l'air du tout d'être forcé, en fait, de leur part, d'essayer de s'adapter ou d'essayer de... Ouais,
bien quelqu'un, sûr. Quoi. Parce qu'ils ont une empathie, parce qu'ils ont vécu des situations difficiles. Après, enfin, moi, je connais aussi des gens qui ont rarement été dans la merde et qui ont beaucoup d'empathie et générosité pour les autres.
Hein, mais bien sûr.
Plus, c'est pas une généralité.
Moi-même, oui, j'ai...
Bien sûr, tout à fait.
J'ai une amie qui est riche et ça va très bien. Hein, elle se comporte parfaitement bien.
Ouais.
Elle n'est pas si différente. Hein.
Oui, d'ailleurs, moi, j'ai un ami riche.
J'ai un ami riche, oui. bon, j'ai eu un ami riche.
D'accord. Tu nous fais ta Nadine Morano.
Je demandais le
numéro. De quoi, pardon?
Tu nous fais Nadine Morano, j'ai un ami noir.
Allô? Allô? Allô?
De qui tu parles?
Je crois que le casque est cassé.
Il n'y a plus de micro, ça marche.
J'ai plus de retour.
Et pareil, au niveau de la liberté, est-ce que vous pensez que, par exemple, la vie amoureuse, être en couple avec quelqu'un, c'est une contrainte? Ou au contraire, c'est une liberté? Je sais pas.
Moi, je pense que c'est une contrainte, en fait, ouais. Que les gens s'imposent, qui a été mis, ne serait-ce que le couple monogame. Ouais. Je trouve que c'est le fait que c'est un truc qui reste de la religion, qui a mis ça en place il y a super longtemps. Les gens se mettent en couple, à mes yeux, par besoin d'affection, aussi
ça,
besoin
humain,
de procréer
besoin
pour certains. Ouais, c'est humain.
Par peur d'être seul.
Mais justement, le fait de vouloir rester en couple,
c'est
jalousie et tout ça, c'est justement par peur de se retrouver tout seul.
Boris?
Ah oui, moi je voudrais dire un truc super important, ou pas. Hein, en fait, dans notre société, on nous impose à nous mettre en couple et on a souvent plus l'envie de l'idéal du couple que de se mettre avec la personne. Ce qui fait des trucs qui marchent pas, exact. D'ailleurs. Et par contre, généralement, c'est des couples qui vont pas bien, qui s'engueulent, qui vont divorcer, etc. Enfin, il y a beaucoup de divorces à cause de ça. Et en fait, si on se met en couple avec une personne parce qu'on a envie de vivre avec, eh ben la contrainte n'est pas la même. En fait, c'est plus une succession de compromis plutôt que du grand n'importe quoi.
Ciao.
Pour moi, le problème vient pas forcément du fait que la société nous impose. Enfin, si, le problème vient de là, effectivement. Mais c'est pas tellement la notion de couple qui, pour moi, est dérangeante. C'est plutôt effectivement le fait qu'elle soit généralisée comme étant la norme, comme étant encore une fois un idéal de bonheur imposé doit atteindre absolument, sinon on peut pas être heureux, etc. À travers tout un tas de films, à travers toute la culture
judéo-chrétienne,
la pop culture aussi,
l'accomplissement d'une personne vient à travers en partie de son attachement à une autre. Et au final, c'est pas tellement ça qui est problématique, parce que ça peut marcher pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de très bien pour certaines personnes, mais ça devrait pas être quelque chose qu'on généralise et qu'on impose.
Ceci dit, j'ai pas la raison quiconque, en fait, ait une explication, en fait, vraiment exacte de ce que c'est être un couple, en fait, avec quelqu'un. C'est un truc que je comprends pas.
Après, ceux qui ont envie de se mettre en couple, ils font ce qu'ils veulent.
Justement, je comprends pas ce que ça veut dire, se mettre en couple. Qu'est-ce que ça implique, en fait?
Ça implique un engagement avec la personne, pas forcément une fidélité.
Être ami avec quelqu'un aussi, ça implique un engagement.
Voilà Simon qui arrive dans le studio.
Simon.
Être ami avec quelqu'un, c'est aussi
un engagement. Oui. Donc, je vois pas la différence. Je présente mon point de vue parce que je suis justement aromantique, moi. Moi, je ne ressens pas le besoin d'être en couple avec quelqu'un. Je ne comprends pas, par exemple, qu'est-ce qui différencie un petit ami ou une petite amie d'une personne que t'aimes beaucoup simplement et que avec qui tu fais des trucs tout ton temps et avec qui tu fais égale, quoi.
C'est l'exclusivité, à mon avis, qui est mis par-dessus, qui fait que ça définit un couple.
C'est parce que les gens, si je vais balancer un peu de sel, c'est parce que les gens ont peur de mourir seuls, c'est des gros fragiles, et voilà.
Ah, le sel,
mais
le
après,
voilà.
Donc,
Les gens sont des fragiles.
Ça doit être Simon qui l'a rapporté.
Moi, je, et ce n'est que mon point de vue, et je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui
totalement
ont envie, il y a des gens qui n'ont pas envie, les gens qui en ont envie, je pense que voilà, on va pas leur en empêcher.
Moi,
je
pense, sont heureux comme ça.
Voilà, exactement. Et moi, je trouve que le fait d'être en couple, enfin, à titre personnel, ça m'apporte une vraie liberté. C'est-à-dire, t'as la liberté d'être avec la personne quand t'as envie de l'être, t'as envie, t'as la liberté d'avoir une sexualité quotidienne si t'en as envie, t'as la liberté aussi de la tranquillité, de pas toujours aller voir à droite à gauche. Moi, voilà, je serais plutôt comme ça. Et pourtant, j'ai pas eu une éducation catho. Hein. Julien, tu veux l'interroger?
J'étais plus sûr quand tu dis si t'en as envie, je pense que c'est si vous en avez envie.
Oui, non, mais bien sûr.
Pareil, j'ai
tiqué. Si je peux être un peu de taquin.
J'ai tiqué aussi sur le, sur
le. Tu vois ce que je veux dire.
Oui, je t'embête, je t'embête, Étienne.
Évidemment.
Le diable est dans les détails.
Bien dit, Lou.
Merci.
Rapidement, pardon, la liberté sur Internet, Boris.
Ah oui.
Tu voulais nous éclairer un peu là-dessus.
Oui, parce que le 20 juin 2018, a été votée une directive copyright au Parlement européen. Alors déjà, pour ceux qui savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est une directive? Ben, c'est un texte de droit dérivé. En gros, c'est un, le contenu du droit n'a pas foi dans les pays, mais il doit être appliqué dans la législation du pays. Donc en gros, la France, si je prends l'exemple de la France, doit faire rentrer dans sa loi, le contenu de la directive.
D'accord.
Donc la directive copyright, c'est un texte visant à améliorer le droit d'auteur sur Internet. Le problème, c'est qu'il a connu une opération de lobbying sans précédent de la part de grosses entreprises, notamment des ayants droit. Il y a deux dangers qui ont été identifiés. Alors l'article 11 et l'article 13. Alors je vais commencer par le 13, qui est super dangereux. Le filtrage automatique de tout contenu mis en ligne par, je cite, une technique efficace de reconnaissance des contenus. En gros, une IA qui malheureusement empêche que elle va empêcher soit la rémunération, soit la diffusion. Et bien sûr, s'il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de rémunération non plus. Et ce, de façon automatique. Du coup, ça ignore toute subtilité des comportements humains, les bugs de calibrage et surtout les exceptions à l'exercice légitime du droit d'auteur. En France, je cite les plus connus, le droit de citation, le droit de pastiche ou le droit de parodie. Ensuite, on a l'article 11. Attention, celui-là, il est pas mal, hein, qui propose de taxer les URL. En gros, les URL, c'est les liens sur lesquels on clique en bleu ou en autre couleur qui nous renvoie vers une autre page. Le souci, c'est que les logiciels libres, tout ce qui est en Creative Commons, Wikipédia, etc., vont se retrouver à devoir payer des taxes alors que c'est des entreprises à but non lucratif. Ils ne touchent aucun argent pour ce qu'ils font. Donc ça met en danger cette liberté. On va voir tout un pan disparaître. Donc on assiste à une dérive. On assiste à deux mouvements. Déjà, attendez, je suis un petit peu perdu.
Tu es à Radio Primitive.
Oui, je sais. T'inquiète pas.
C'est à Reims.
Tout est bien passé. Donc,
on observe deux choses. Une surveillance généralisée d'Internet, qui est, je vais pas le dire, mais une dérive fasciste. Surveiller tout.
Big Brother vous regarde.
Ça va empêcher la libre création parce que par exemple si je prends l'exemple de la techno qui utilise beaucoup des samples d'autres musiques, c'est pas du contenu original donc ça pourrait être supprimé.
Ainsi que beaucoup d'autres styles de musique d'ailleurs.
Ouais. Lou pour terminer.
Justement style de musique et je parle du point de vue graphiste, ce qu'on appelle les hommages à les fanarts.
Ouais. Ouais.
Donc qui pourtant sont des apports majeurs notamment au niveau aide des artistes tout ça.
Donc Internet, si ça continue, ça va devenir un marché littéralement géant qui va perdre tout ce qui fait de lui Internet.
Donc Internet ne fera que se rediriger ailleurs.
Alexis.
Vas-y Alexis.
Moi je trouve qu'il y a un truc de positif, c'est que les étudiants qui copieront les liens dans Wikipédia, ils auront plus à supprimer les liens à l'hypertexte, ils seront tranquilles.
Alors, tout n'est pas perdu par l'action de deux personnes, une personne et un groupe. Le premier, c'est l'eurodéputée Julia Reda, qui a fait un rapport sur il y a quelques années sur l'extension du droit d'auteur au numérique, qui mène un combat acharné contre ces articles délétères et quelques autres dérives, notamment celle des lobbies. Et deuxièmement, alors le DRI, alors je vais pas la faire en anglais, mais en gros c'est l'Association des droits numériques, dont le directeur exécutif est Joe Namek, je sais plus.
McNamek.
Ouais, sûrement, je sais plus exactement. J'ai fait un pâté. Alors en fait, il traduit que l'Union européenne a reçu, enfin du moins les eurodéputés ont reçu un nombre impressionnant d'appels, de courriels et de textes envoyés par les internautes qui dépassent largement les eurodéputés qui font partie du jury, et ça s'inquiète sévèrement à l'Europe. Donc le combat n'est pas encore gagné, hein. La loi, enfin la directive est passée, mais l'Europe peut toujours faire marche arrière. Donc je vous invite à vos claviers et à aller sur le site du Parlement européen, contacter vos eurodéputés. Alors c'est simple, vous allez sur le site de l'Europe, vous tapez sur le menu déroulant, onglet député, recherche, vous suivez votre député, tout devient logique à partir de là. Vous lui envoyez un petit mail. Du moins, si les gros industriels font du lobbying, nous aussi. Et croyez-moi, contre quelques élites, nous sommes des milliards, c'est impossible qu'ils nous évitent.